des contes, des légendes, des traditions, des coutumes, des régions françaises et du monde entier. Et aujourd'hui, nous allons passer des légendes, des traditions de l'histoire chevaleresque du Moyen-Âge jusqu'au XXIe siècle, avec l'exemple d'un ordre de chevalerie d'aujourd'hui, l'ordre royal de l'Étoile et de Notre-Dame du Mont-Carmel. Dans la première partie de cette émission, la semaine dernière, nous avions évoqué les principes de la chevalerie au service de la veuve et de l'orphelin, de façon générale, au service de Dieu et de son prochain. C'est là les principes de base de cette chevalerie avec courtoisie, force et service. Il y a divers ordres de chevalerie, nous en avons parlé d'un particulier qui a été fondé en 1022 par Robert II le Pieux, le fils d'Hugues Capet, fondateur de la dynastie capétienne. Depuis lors, plusieurs siècles se sont passés et nous nous retrouvons, après la disparition de cet ordre de l'Étoile, avec Jean II le Bon. Il est né en 1319, près du Mans. Il est le fils du fondateur de la branche des Valois et il va régner de 1350 à 1364. Cette nouvelle branche des Capétiens Valois se trouve confrontée à la crise de la féodalité, aux sanglantes défaites du début de la guerre de Cent Ans et à la grande peste. Par ailleurs, elle se trouve aux prises avec une incapacité à faire rentrer les impôts et recourt donc à des mutations monétaires pour enflouer le trésor, ce qui entraîne des dévaluations extrêmement impopulaires. Profitant de tous ces troubles intérieurs, confiant dans leur supériorité tactique avec l'arc long, le grand arc anglais et gallois, les Anglais, menés par Édouard III et son fils, le prince noir, relancent la guerre en 1355. Jean II le Bon est battu et fait prisonnier le 19 septembre 1356 à la bataille de Poitiers, malgré la restructuration de l'armée qu'il a menée à bien. Le pays sombre alors dans le chaos. Les états généraux, menés par Étienne Marcel et Robert Lecoq, prennent le pouvoir à Paris et tentent d'installer Charles de Navarre à la tête d'une monarchie qui contrôlerait. En 1358, les campagnes se soulèvent et s'allient avec Étienne Marcel, mais le dauphin, le futur Charles V, se fait nommer régent et retourne la situation. Jean le Bon peut regagner la France en 1360, après la signature du traité de Brétigny, qui lui rend la liberté, mais cède un tiers du pays au roi d'Angleterre, Édouard III. Son retour au pays est difficile, il faut payer une énorme rançon et les finances du royaume de France sont au plus bas. Alors le roi va stabiliser la monnaie grâce à la création du franc. Toutefois, il ne peut s'opposer aux ravages perpétrés par les grandes compagnies des bandes de soldats en rupture de campagne militaire qui pillent les zones rurales et bloquent le commerce. Le roi Jean tente bien de mettre fin à leur agissement, mais l'armée royale est vaincue à Brignais. Il tente à nouveau d'en libérer le pays en les menant en croisade contre les Turcs avec l'argent du pape, mais il essuie un nouvel échec. Innocent VI mourant 15 jours avant son arrivée en Avignon, étant remplacé par le peu dispendieux Urbain VI. L'ordre de la Jarretière, qui avait été créé par Édouard III d'Angleterre, engendrait le risque d'attirer nombre de chevaliers français, car à l'époque, après des générations d'alliances matrimoniales, les domaines seigneuriaux étaient fréquemment épars et dépendants de plusieurs royaumes par le jeu complexe des vassalités, seigneurie et suzeraineté. Ainsi, une bonne partie des provinces de l'est de la France était sous le contrôle, depuis l'époque de Guillaume le Conquérant, qui était duc de Normandie, de princes qui étaient également possessionnés en Angleterre. Les seigneurs de l'ouest de la France pouvaient avoir la tentation de suivre la logique et l'intérêt économique qui fait de la Manche une grande zone d'échange et basculer dans le camp anglais. Au XIVe siècle, la féodalité est en crise et la noblesse est confrontée à une importante baisse de ses revenus à la suite de nombreuses dévaluations. Alors, l'appartenance même à la noblesse se définit par une conduite honorable et généreuse, voire dispendieuse, afin notamment d'entretenir la masse de ses dépendants. Des membres désargentés de la noblesse française pourraient donc changer de camp si Édouard III leur proposait une rente. Lorsque Jean II le Bon crée l'ordre de l'étoile, une solde est donc versée aux chevaliers. Dans le même temps, ces règles exaltent l'idéal chevaleresque et s'affirment ainsi comme la fière réponse du royaume de France à l'ordre d'Édouard. Le siège en est fixé à Saint-Ouen, près de l'abbaye de Saint-Denis, où sont conservés les tombeaux des rois et les insignes de la royauté. D'un point de vue tactique, ces mesures sont censées donner plus de cohésion à l'armée médiévale qui a été vaincue à Crécy. Mais il faut bien reconnaître que sur le plan de la tactique militaire, une unité qui ne recule pas lorsqu'elle est mise en difficulté se retrouve bientôt encerclée et risque fort d'être capturée ou anéantie. C'est ainsi que lors de la bataille de Poitiers, cette règle provoque la mort ou la capture de plusieurs chevaliers, dont le grand maître, le roi en personne. L'ordre va alors décliner assez rapidement. Donc c'était le 16 novembre 1351, 4 ans après la création de l'ordre de la Jarretière par le roi d'Angleterre Édouard III, et comme une réponse française, le roi Jean II le Bon créa l'ordre de l'Étoile, que ses statuts nomment également Ordre de Notre-Dame de la Noble Maison, au double motif du patronage de la Sainte Vierge et du siège magistral de l'Orge établi en la demeure royale du palais de Clichy à Saint-Ouen. On admet couramment que l'ordre de l'étoile fut inspiré par Godefroy de Charny, l'un des théoriciens médiévaux de l'idéal et de l'état chevaleresque, considéré comme l'un des meilleurs chevaliers de son temps. Geoffroy de Charny est l'auteur de 3 ouvrages sur la chevalerie, plus précisément écrits à l'attention de ses confrères de l'ordre de l'étoile. L'admission dans l'ordre ne tenait pas compte des exploits mondains, tels la valeur lors des tournois, mais seuls les mérites personnels démontrés sur le champ de bataille étaient pris en compte. Les statuts de l'ordre prévoyaient de regrouper autour du roi les 500 meilleurs chevaliers de la noblesse française. D'une fidélité et d'une bravoure à toute épreuve, Jean le Bon n'en créa lui-même que 18. Le but était aussi de discipliner les chevaliers afin de ne pas renouveler le désastre de Crécy. Ces mêmes statuts stipulaient que si un chevalier de l'ordre s'enfuyait au cours d'une bataille, il serait suspendu de l'ordre et ne pourrait en porter l'habit, tandis que son blason figurerait renversé. Jusqu'à décision contraire du roi et de son conseil, ce qui, sur le plan de la symbolique héraldique, est la pire des sanctions avant la dégradation de noblesse et de chevalerie, accompagnée de la destruction définitive des armoiries. En outre, les chevaliers de l'ordre juraient de ne jamais tourner le dos à l'ennemi ni de ne jamais reculer de plus de 4 pas face à lui. Ce serment prêté lors de la première fête de l'ordre de l'Étoile coûta la vie à 90 chevaliers à la bataille de Moron en 1352. Lors de la bataille de Poitiers en 1356, cette disposition provoqua la mort ou la capture de plusieurs chevaliers. L'ordre tomba ainsi rapidement en désuétude. Malheureusement, le successeur du roi Jean II le Bon, le roi Charles V, ouvrit trop généreusement l'admission à l'ordre, allant jusqu'à supprimer toute cérémonie d'investiture et la remplacer par une simple lettre, ce qui dévalorisa l'institution qui finit par s'éteindre. Les chevaliers de l'ordre de l'Étoile portaient le manteau de damas blanc sur le devant, duquel était fixée à gauche une étoile brodée en or en fermaille. Leur collier était composé de 3 chaînettes. Au bas de ces chaînettes était suspendue une étoile à 5 branches, avec sur un listel surmontant cette étoile la devise « Monstrant regibus astram viam » en allusion à l'étoile des rois mages. L'étoile montre le chemin au roi. Voici un hommage à Notre-Dame du Mont-Carmel par une fille du Carmel, Sainte Thérèse de Lisieux, qui a été déclarée patronne secondaire de la France, sur une musique et interprétée par Pierre Eliane.
Aux premiers instants de ma vie, vous m'avez prise entre vos bras. Depuis ce jour, mère chérie, vous me protégez ici-bas. Pour conserver mon innocence, vous m'avez mise en un doux nid. Vous avez gardé mon enfance à l'ombre d'un cloître béni. Plus tard, au jour de ma jeunesse, de Jésus, j'entendis l'appel. Dans votre ineffable tendresse, vous m'avez montré le Carmel. Viens mon enfant, sois généreuse, me disiez-vous avec douceur. Près de moi tu seras heureuse, viens t'immoler pour ton sauveur. Près de vous, ô ma tendre mère, j'ai trouvé le repos du cœur. Je ne veux plus rien sur la terre, Jésus seul est tout mon bonheur. Si parfois je sens la tristesse, la crainte qui vient m'assaillir, toujours soutenant ma faiblesse, mère, vous daignez me bénir. Accordez-moi d'être fidèle à mon divine époux Jésus, qu'un jour sa douce voix m'appelle à voler parmi les élus. Alors plus d'exil, de souffrance, je vous redirai dans le ciel le chant de ma reconnaissance, aimable reine du Carmel.
Nous parlons donc de cet ordre de l'étoile qui, au XXIe siècle, s'appelle Ordre royal de l'étoile et de Notre-Dame du Mont Carmel. Nous avons vu les premières créations de cet ordre par Robert II le Pieux au XIe siècle, par Jean II le Bon au XIVe siècle. Voici le XVIe siècle avec Henri IV. Tout le monde connaît Henri IV, qui dut guerroyer pendant ses guerres de religion pour retrouver sa succession à Henri III de Valois, instaurer une nouvelle branche des Capétiens en la personne des rois Bourbons. Henri IV devint donc roi de France après avoir dû batailler pour prendre la couronne. Et il devint roi de France de 1589 à 1610, où il fut assassiné. Le roi de Navarre, Henri, passa de la religion catholique à la religion protestante, puis à la religion catholique, puis à nouveau protestante. Et il déclara, selon la légende, « Paris vaut bien une messe » quand il dut ceindre la couronne de roi de France. Il lui fallait être catholique. C'est pourquoi il accepta de l'être et il put devenir le successeur officiel de Henri III, puisqu'il était son plus proche parent. Le roi Henri IV était converti au catholicisme en 1593 et scellait ainsi son union de foi avec le Saint-Siège. En février 1608, il demanda au pape Paul V de créer un ordre pour solenniser cette conversion et selon les termes utilisés pour l'extirpation de l'hérésie. Le pape accéda à sa demande et l'ordre de Notre-Dame du Mont Carmel fut créé par la bulle pontificale du 26 février 1608. L'insigne en était une croix en or à huit pointes émaillée amarante, pommetée d'or, bordée de blanc et ornée d'un médaillon central représentant la Vierge du Mont Carmel. Le grand maître ainsi que les chevaliers avaient le droit de se marier. En 1608, le roi nomma le grand maître de l'ordre de Saint-Lazare de Jérusalem, depuis 1604, Philibert de Nérestan, grand maître de l'ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel. Puis par brevet, toujours la même année, Henri IV décida d'unir cet ordre avec celui de Saint-Lazare de Jérusalem, ordre souverain militaire et hospitalier, né en Terre Sainte vers 1060. Militarisé après la première croisade, à l'instar de l'ordre souverain militaire et hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, appelé plus tard Ordre de Malte, et placé par Philippe IV le Bel en 1308 sous la protection temporelle héréditaire des rois de France. Il est à souligner que pour bien confirmer qu'en aucun cas l'ordre de Saint-Lazare de Jérusalem n'était supprimé en raison de cette union, Henri IV signa un brevet dénommé « Mandement ou lettre patente » daté du 29 mai 1609 qui consacrait cette réalité. En 1668, une bulle du légat pontifical en France consacra l'union des deux ordres. Dans les années 1660, Louis XIV lui-même confirma les privilèges des deux ordres unis et ce fut également le cas du cardinal de Vendôme, légat du pape. Plus tard, ils ont été reconfirmés à l'époque de Louis XV, ces différents ordres, et le protecteur et chef souverain en étant toujours le roi de France. Cet ordre de Saint-Lazare de Jérusalem, Notre-Dame du Mont-Carmel, réunissait des militaires issus de la noblesse. 8 quartiers de noblesse étaient exigés, ce qui en faisait l'ordre le plus prestigieux en France après les ordres du roi, ordre de Saint-Michel et du Saint-Esprit. Outre leur engagement religieux de vie chrétienne et leur action purement militaire, les chevaliers de l'ordre avaient aussi un rôle hospitalier, notamment envers les vieux soldats. L'ordre uni aussi avait une vocation maritime puisqu'il possédait 10 frégates pour défendre le royaume de France, notamment contre les menées des Anglais et des pirates. A noter aussi qu'au XVIIIe siècle, l'ordre entretenait des relations diplomatiques avec l'Empire ottoman et les régences d'Afrique du Nord. Le grand maître Louis, comte de Provence, futur Louis XVIII, reconfirma son rôle militaire en lui confiant l'éducation des futurs officiers, tout spécialement l'administration de l'école militaire de Paris. La Révolution française supprima en 1792 tous les ordres chevaleresques et religieux et confisqua leurs biens. Cependant, en exil, Louis XVIII n'hésitait pas à créer des chevaliers de l'ordre. Ces deux ordres, établis dans leur droit à la Restauration, demeureront unis jusqu'en 1830, date à laquelle l'ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel et lui seul fut supprimé. Si ce titre de Notre-Dame du Mont-Carmel a été choisi, c'est parce que le Mont Carmel était un lieu privilégié. Déjà dans l'ancienne alliance, c'était un lieu de résidence du prophète Élie, s'est installé là. Puis un certain nombre d'ermites installés dans cette montagne du Mont Carmel ont fondé un ordre du Carmel au XIIIe siècle. Et c'est ainsi que s'est répandu à partir de là et aussi par les visions qu'a eu Saint Simon Stock, qui était le supérieur général de l'ordre au XIIIe siècle, de la Vierge Marie, qui lui a présenté un scapulaire du Mont Carmel qui s'est répandu comme un acte de dévotion. C'est un petit morceau de tissu que l'on met sur soi qui représente une partie de l'habit qu'utilisent les moines du Mont Carmel. Donc on s'associe, on est en quelque sorte fait partie d'un tiers ordre du Mont Carmel, tiers ordre des Carmes et Carmélites, pour participer à la prière perpétuelle des religieux et des religieuses de cette manière-là et se mettre sous la protection de la Vierge Marie. C'est pourquoi au XVIe siècle, entre autres, et jusqu'à aujourd'hui, puisque même le pape Pie XII a parlé de ce scapulaire, ce serait pour eux un signe de leur consécration au Sacré-Cœur de la Vierge Immaculée, déclare-t-il, lors du 700e anniversaire de la vision de Notre-Dame à Saint-Simon Stock. C'est aussi au XVIe siècle que Henri IV a choisi de placer cet ordre de chevalerie sous la protection de Notre-Dame du Mont Carmel. Thank you. Et c'est au XXIe siècle que le chef de la maison royale de France, son altesse royale, le comte de Paris, duc de France, descendant de Saint-Louis et de Louis XIII et d'Henri IV, a décidé de reconstituer cet ordre en y associant à la fois l'ordre de l'Étoile, fondé par Jean de Le Bon et son prédécesseur Robert II le Pieux, ainsi que par son ancêtre Henri IV. Cet ordre reconstitué s'appelle l'ordre royal et souverain de l'Étoile et de Notre-Dame du Mont-Carmel, puis instauré en 2014, le 8 septembre, jour de la nativité de la Vierge Marie, dans l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, qui est l'église paroisse des rois de France, où, par exemple, le futur Louis XVII fit sa première communion. Aujourd'hui, cet ordre est destiné à défendre le patrimoine matériel, religieux, historique, culturel aussi de la France. Et s'il ne s'agit plus d'aller guerroyer ici ou là, mais c'est de participer à cette œuvre patrimoniale et hospitalière qui est le principe de la chevalerie, de défendre la veuve et l'orphelin ainsi que le pauvre, de défendre le patrimoine religieux, historique, culturel de la France. Chaque chevalier est adoubé par le sérénissime grand maître de l'ordre de l'Étoile et il reçoit ainsi un manteau avec une étoile d'or. Il y a également un insigne, c'est une croix amarante chargée au centre d'une étoile d'or avec les armes de France, donc les trois fleurs de lys d'or sur fond d'azur, avec la devise historique de l'ordre « Monstrant Regibus Astra Viam » en lettres d'or et le cri « Maria Stella Stella Maris » est inscrit en lettres amarantes sur un listel au-dessus de la médaille. La Vierge Marie est souvent symbolisée effectivement par l'étoile, comme le dit Saint Bernard. Le nom de la Vierge était Marie, qui signifie « étoile de la mer ». Elle est cette brillante et merveilleuse étoile qui domine heureusement notre mer immense, étincelante de mérite, éclatante de vertu. Et dans l'Apocalypse, il est dit « Je suis l'étoile radieuse du matin, le vainqueur, celui qui restera fidèle à mon service jusqu'à la fin. Je lui donnerai pouvoir sur les nations et je lui donnerai l'étoile du matin, celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. » Et pour plus d'informations sur la chevalerie et cet ordre de l'étoile, on pourra retrouver un livre qui vient de paraître de Pascal Gambirasso d'Asseux, « La chevalerie et l'ancien ordre royal de l'étoile » aux éditions Apopsix. Et c'est ainsi que nous allons quitter pour aujourd'hui Robert II le Pieux, Jean II le Bon, Henri IV et cet ordre royal de l'Étoile et de Notre-Dame du Mont-Carmel, ordre de chevalerie du XXIe siècle, pour retrouver d'autres récits, d'autres histoires des régions françaises et du monde entier la semaine prochaine.